IT des Amériques avec vous, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 7h10 à Ciudad Juárez. Quand le Covid devient une nouvelle motivation au départ des Mexicains vers les États-Unis, on est à la frontière entre les deux pays dans un instant. Les Latinos moins vaccinés que les autres communautés sur le sol américain. On va revenir aussi sur un témoignage déterminant hier au procès d'Éric Chauvin. Une nouvelle attaque en toute impunité dans la capitale haïtienne. On est à Port-au-Prince avec Gonson Pierre d'Alter Press et puis on reviendra sur la pandémie. Dans votre journal de l'Outre-mer dans une quinzaine de minutes, Tiziana Maron, on fera un point sur la situation en Martinique.
Oui, Michael, la situation de la circulation du virus est ici particulièrement préoccupante.
À tout à l'heure. Tiziana et bienvenue à tous. Ils sont salvadoriens, guatémaltèques ou honduriens. Cette année, les autorités américaines s'apprêtent à arrêter à leur frontière sud plus de migrants que durant chacune des 20 dernières années. Des centra-américains donc, mais aussi, et c'est une nouveauté que l'on n'avait pas observée depuis un moment, des Mexicains. Ils étaient moins nombreux ces dernières années à fuir leur pays, mais la pandémie de Covid est passée par là et aujourd'hui, beaucoup ne voient plus d'autre choix que de prendre la route vers le nord. Alix Sardi est à Ciudad Juárez, côté mexicain.
Dans ce refuge de l'État pour enfants et adolescents migrants de Ciudad Juárez, ville frontalière avec le Texas, 80% des pensionnaires sont mexicains. Le directeur José Alfredo Villa a vu les chiffres exploser cette année.
Ils partent seuls car souvent les familles n'ont pas assez d'argent pour émigrer ensemble. Alors elles envoient l'aîné chercher une vie meilleure aux États-Unis, où il sera pris en charge par son oncle ou sa tante. Mais beaucoup sont interceptés à la frontière et renvoyés ici. Depuis la fin 2020, quand les restrictions sanitaires ont diminué au Mexique, on a vu une forte hausse de ce flux migratoire, plus 100% dans notre refuge. Soudain, on avait 100, 150 enfants chaque mois et ça continue ainsi depuis.
En 2020, l'économie mexicaine s'est contractée de plus de 8%, plongeant près de 10 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. À cette urgence s'ajoute l'espoir d'un président américain plus clément. Il n'a pas ouvert la frontière, mais les passeurs sont là pour cultiver un message opportuniste auprès des candidats à la migration, regrette Dolores, qui gère un refuge pour migrants à Juárez.
Les passeurs leur disent « Oui, oui, le président américain va vous aider, la frontière est ouverte ». Que des mensonges. Nous, on leur dit de pas venir maintenant, d'attendre, parce que sinon ils se font juste plumer par les passeurs. Mais ils viennent de toute manière, ils nous écoutent pas. Leur décision est déjà prise.
Une entrée clandestine toujours plus risquée. Le mois dernier, une vingtaine de migrants sans papier entassés dans des véhicules surchargés ont péri dans deux accidents du côté américain de la frontière. Alix Sardi, de retour de Ciudad Juárez, RFI.
Et vous nous en parliez justement hier dans la presse. Marie Normand, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
On l'entendait, la pandémie est une des raisons de la migration. Le Covid qui fait toujours bien sûr la une des journaux. Vous nous parlez aujourd'hui, Marie, du Costa Rica qui a rouvert hier ses frontières terrestres avec le Nicaragua et le Panama un an après leur fermeture. Le même jour, le pays a aussi reçu de nouvelles doses de vaccins.
Oui, contre le Covid-19, donc 159 000 doses d'AstraZeneca et de Pfizer arrivent dans le pays. C'est à la une de la Nation aujourd'hui. Le plus gros est arrivé hier soir, des achats directs du pays auprès de Pfizer. 43 000 autres vaccins seront acheminés demain, mercredi, par l'intermédiaire du mécanisme COVAX. La campagne de vaccination se poursuit, donc on le comprend, avec en parallèle cette alerte de la Caisse de Sécurité Sociale du Costa Rica. Elle signale, note la Nation toujours, une augmentation des formes graves du Covid-19. Pour la première fois au cours des trois derniers mois, le taux d'occupation des lits des unités de soins intensifs est supérieur à celui des autres unités.
La pandémie qui fait craindre le pire en Équateur, Marie, notamment à Guayaquil, à 5 jours maintenant du second tour de la présidentielle.
Oui, on s'en souvient, la ville avait connu un effondrement de son système de santé lors de la première vague l'année dernière et des difficultés pour évacuer les corps des personnes décédées. Eh bien, actuellement, la situation est alarmante. C'est en tout cas ce que dit un porte-parole du conseil municipal cité par El Mercurio. Les unités de soins intensifs, là encore, sont occupées à 100%. La province de Guayas, donc Guayaquil, est la capitale et comme 7 autres provinces du pays en état d'urgence depuis vendredi avec un couvre-feu et des restrictions de circulation. Et la situation n'est pas vraiment meilleure à Quito, la capitale, où presque 96% des lits de réanimation sont occupés, selon le journal La Hora.
Et pendant ce temps, à Bogota, en Colombie, là, c'est le début d'un reconfinement strict.
Oui, un autre isolement, c'est la une d'El Espectador, avec à partir d'aujourd'hui le retour du Pico et ses doulas, un système de rotation pour accéder aux lieux privés ouverts au public, comme les banques, les magasins, selon son numéro de carte d'identité. Et puis quarantaine générale de 4 jours à partir de samedi qui pourra être prolongée, prévient la maire de Bogota.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Les théâtres, par exemple, ont rouvert il y a quelques jours à New York. Un semblant de vie d'avant grâce à la vaccination, son organisation militaire et l'opération Warp Speed initiée par Donald Trump. À partir de ce mardi, d'ailleurs, tous les adultes new-yorkais sont autorisés à se faire vacciner. Hier, au dernier relevé, plus de 107 millions d'Américains avaient reçu une dose au moins de vaccin. 3 millions d'injections en moyenne réalisées quotidiennement dans des vaccinodrones, mais aussi grâce à un réseau de proximité chez les pharmaciens ou bien les médecins de ville, comme l'explique Tom Frieden, médecin et ancien directeur du département santé de la ville de New York.
Lorsque l'administration Biden est arrivée, il n'y avait pas de plan pour administrer le vaccin. Lorsque vous écoutiez les responsables de l'opération Warp Speed parler à la télévision, vous aviez l'impression qu'ils parlaient de la livraison des produits pour une épicerie. Mais la distribution d'un vaccin, c'est autre chose. Il faut gagner la confiance des gens, il faut leur parler à travers des campagnes de communication. Je trouve que l'administration Biden a fait un très bon travail dans ce domaine en s'appuyant sur le dispositif déjà mis en place avec succès par l'administration Trump. Le principal défi qui reste à relever, c'est d'améliorer l'accès équitable aux vaccins. En ce moment, les communautés noires et latinos sont vaccinées 2 fois moins vite que des Américains blancs.
Et pour quelles raisons ?
Il y en a beaucoup. Le plus grand problème, c'est le manque d'accès aux vaccins. Il y a aussi une certaine réticence à se faire vacciner parmi les Afro-Américains. Cela tient au racisme historique du système de santé à l'égard de cette communauté. Et aussi parce que notre système de santé publique ne permet pas une prise en charge adéquate, non seulement pour les Noirs ou les Latinos, mais pour tout le monde.
Primary healthcare system in this country, not just for black and Hispanic people, but for everybody.
Concernant la communauté latino, les réticences à se faire vacciner sont liées à l'immigration. Certains, qui n'ont pas encore un titre de séjour, ont peur de solliciter le service d'une institution publique. Mais il y a des endroits comme la Caroline du Nord ou la ville de Chicago qui ont très bien réussi à faciliter la vaccination pour ces groupes minoritaires. Les autorités ont mis en place des centres de vaccination dans les quartiers concernés et sont ensuite allés frapper à la porte des maisons pour dire aux gens « Allez-y, ce centre de vaccination est pour vous. »
To get the vaccine in this site, and then they go door to door and they say, come on in, it's for you.
Des propos recueillis par Harim Lipold, d'une résistance qui est aussi politique. 47% des partisans de Donald Trump refusent encore de se faire vacciner. Interrogé hier sur la chaîne ABC, le leader de la majorité républicaine au Sénat leur a adressé un message.
I saw on some program last week that Republican men.
J'ai entendu dire, explique Mitch McConnell, que certains hommes républicains refusaient la vaccination. Je suis républicain et je veux vous dire, faites-vous vacciner, à bon entendeur.
RFI, les voix du monde.
On reste dans la politique américaine. Marie, vous êtes toujours là. Et cette question, les multinationales américaines seront-elles bientôt davantage taxées ? Les élus démocrates du Congrès dévoilent leur plan.
Oui, ce plan qui vise à augmenter l'impôt que les États-Unis imposent déjà sur les bénéfices réalisés à l'étranger. Proposition qui, selon le New York Times, pourrait permettre de collecter jusqu'à 1 000 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années. Bref, de quoi financer le vaste plan d'investissement présenté par Joe Biden la semaine dernière. Un plan qui permettrait, se félicite le San Antonio Express au Texas, de compenser les déficiences révélées par la tempête hivernale. On s'en souvient, hein, Michael, des semaines entières sans électricité et sans eau.
Le secrétaire au Trésor soutient, lui, en parallèle, Marine, une démarche de taxation internationale.
Oui, la création d'un impôt minimum mondial qui s'appliquerait aux multinationales, donc quel que soit le lieu où elles ont leur siège, l'idée étant d'éviter qu'elles se réfugient dans des paradis fiscaux comme l'Irlande. Paris et Berlin se réjouissent de cette initiative, mais pour le Wall Street Journal, dans son édito du jour, c'est la compétitivité américaine qui est menacée.
Dans la presse américaine, toujours aussi évidemment le récit des audiences au procès Chauvin, cet ex-policier blanc accusé du meurtre de George Floyd. 6e jour hier avec un témoignage accablant pour l'accusé, celui de son ancien chef, Medaria Arredondo, qui estime que son ancien agent a absolument violé les règles d'usage de la force dans cette affaire, Eric DeSalve.
un chef de la police qui témoigne contre l'un de ses agents. C'est quasiment du jamais vu aux États-Unis. Interrogé par l'accusation en uniforme devant le tribunal, Medaria Arradondo pulvérise l'un des principaux arguments de la défense. Oui, absolument, répond le numéro 1 de la police de Minneapolis. Derek Chauvin a violé sa formation, mais aussi le règlement de la police, en immobilisant George Floyd avec son genou posé sur sa nuque pendant plus de 9 minutes.
Le fait de continuer d'imposer un tel niveau de force à quelqu'un qui est déjà face contre sol et menotté dans le dos n'est en aucun cas conforme à notre politique, à notre formation et certainement pas non plus à notre éthique ni à nos valeurs.
Medaria Arradondo est le premier Afro-Américain à diriger la police de Minneapolis. Cet été, c'est lui qui avait licencié Derek Chauvin, lui aussi qui avait qualifié de meurtre la mort de George Floyd. En témoignant devant le tribunal, le chef Arradondo fait en sorte que ce procès reste celui de Derek Chauvin uniquement et non pas celui de la police qu'il a promis de réformer. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Enfin, deux autres informations, Marie, ont retenu votre attention aujourd'hui. Dans le Devoir d'abord, au Canada, un Français a échoué au test de français, test obligatoire pour obtenir sa résidence permanente au Québec.
Oui, est-ce qu'il lui a notamment donné du fil à retordre? C'est la partie compréhension orale. Il faut répondre, explique le journal Le Devoir, à 60 questions en 40 minutes seulement. Bon, Johan Flamand a finalement réussi ce test à la deuxième tentative, mais il dénonce dans le journal un processus beaucoup trop sélectif, trop cher aussi. Le test coûte environ 160 € et contre-productif pour le Québec, surtout pour les secteurs qui recrutent comme le sien. Et ce camionneur de 39 ans français donc met au défi les Québécois d'essayer de passer cette épreuve de langue française tout en soulignant l'ironie que ces tests soient envoyés en France pour être corrigés.
Pas toujours facile, hein, le français. Enfin, Marie, le Venezuela perd l'un de ses pionniers du rock. Henry Stéphane est décédé hier.
Oui, il s'est éteint à 79 ans dans un hôpital de Caracas après des complications liées au Covid-19, explique Efecto Cocuyo. El Nacional raconte la longue carrière du chanteur qui a commencé par des reprises des Beatles dans sa région natale de Zulia avant le succès national connu avec son groupe Los Impala et dans le monde entier avec ce titre Limon Limonero, disque d'or, tube de l'été en Espagne en 68, un titre qui reste encore dans l'imaginaire vénézuélien. Efecto Cocuyo je rappelle qu'Henri Stéphane avait créé la controverse également l'année dernière en apparaissant sur la chaîne de télévision d'État et en faisant de la publicité pour une marque de farine de maïs produite par l'armée. Le président Nicolas Maduro a salué sa mémoire. Son héritage, dit-il sur Twitter, reste parmi nous.
Et ce tube, donc, d'Henri Stéphane, Limon Limonero. Merci beaucoup, Marie Normand. Il est 9h23, Port-au-Prince, l'heure de jeter un œil à la presse haïtienne.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et c'est Godson Pierre que l'on retrouve comme chaque mardi, rédacteur en chef du site Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
La criminalité toujours à la une après une nouvelle attaque jeudi dernier par un gang à Bel Air, un quartier de Port-au-Prince. Plusieurs bâtiments ont été incendiés. Un octogénaire est mort brûlé vif. Le nombre de morts et de blessés d'ailleurs est pour l'instant indéterminé. C'est la troisième tuerie ainsi perpétrée en toute impunité en moins de 2 ans au Bel Air. Comment peut-on expliquer, Godson, cette non-intervention de la police?
Ben justement, on peine à se l'expliquer, surtout que Bel Air se trouve à quelques pas du palais présidentiel, du quartier général de l'armée remobilisé et non loin du principal commissariat de police de Port-au-Prince. Les témoins rapportent qu'au lendemain des premières violences, la police avait placé des unités mobiles dans la zone, ce qui avait tenu quelque peu en respect les groupes armés. Par la suite, la police a vidé les lieux. On a alors assisté à un deuxième massacre en 2020 et la terreur a continué jusqu'à cette autre attaque. Les riverains témoignent qu'ils ont dû faire face seuls à la situation, avec l'aide parfois de policiers qui ont agi de leur propre chef, tenant compte du fait qu'ils habitent la zone ou qu'ils ont des parents qui vivent dans le quartier. On observe aussi un silence assourdissant du gouvernement sur la question.
La criminalité et le Réseau national de défense des droits humains, Godson, qui déplore le manque de solidarité de la population haïtienne, qu'entend-il par là?
Eh bien, le RNDDH NIH estime que la société civile ne s'est pas assez mobilisée sur ce dossier. Tout se passe comme si à Bel Air, la vie de familles entières n'était pas en danger. Le RNDDH dénonce aussi le fait que les organismes humanitaires de l'ONU n'ont pas volé au secours des victimes, alors que les organisations de droits humains ne sont pas préparées à gérer cette situation de massacre en Syrie.
Ce même réseau, Godson, qui revient aussi sur l'évasion massive le 25 février dernier à la prison de Croix-des-Bouquets, il dénonce une éventuelle implication des agents de la direction de l'administration pénitentiaire.
Le RNDDH est même convaincu, disons-le, que l'évasion planifiée du 25 février est due à la participation active d'agents de la direction de l'administration pénitentiaire. Il recommande également d'enquêter sur les nombreuses activités commerciales des agents au sein de la prison civile de Croix-des-Bouquets et d'élucider les circonstances de l'assassinat du responsable de la prison, Paul Hector Joseph. Lors de cette mutinerie, rappelons-le, 32 personnes, dont 31 détenus, ont été tuées, 18 autres ont été blessés alors que 433 autres se sont évadés.
Et tout ça est donc à lire sur votre site Alter Press. Godson Pierre, rédacteur en chef avec nous sur RFI. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on en revient à la situation du Covid. Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour Michael.
La Martinique et l'épidémie qui gagnent là-bas du terrain.
Oui, après des semaines de circulation virale considérée comme stable, la situation est jugée maintenant alarmante par les autorités. Muriel Touzia de Martinique, la première.
Plus de 600 nouvelles personnes positives la semaine dernière, alors que l'on en a enregistré moins d'une centaine il y a encore un mois. Certes, le nombre de tests réalisés a augmenté, mais sans commune mesure avec la proportion des résultats positifs. Ce qui change, c'est la présence de variants plus contaminants. Près de 95% des tests criblés correspondent à une suspicion de variant anglais. Mais il faut regarder aussi le profil des personnes atteintes. Ici comme ailleurs, l'ensemble des classes d'âge, sauf les 0-9 ans, a connu une incidence en augmentation. 30% de plus en une semaine chez les 15-44 ans et plus particulièrement marqué chez les 20-30 ans.
Et concernant la campagne de vaccination, cap sur la Guyane où seulement 3% de la population est vaccinée, alors que dans le département, les plus de 30 ans peuvent désormais recevoir le vaccin. C'est le scepticisme qui règne à Maripasoula, commune située au cœur de la forêt amazonienne. Le reportage de Pierre Tréfou de Guyane la Première.
Depuis plusieurs semaines, des maraudes sont organisées dans différents quartiers de Maripasoula. L'objectif, expliquer l'intérêt de se faire vacciner. Cécile Gaspard, infirmière à l'équipe mobile en santé publique en commune, l'EMSPEC.
On a pris des personnes qui souvent aident déjà pour des traductions ou accompagnent déjà des patients au dispensaire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des personnes qui représentent un petit peu la population à qui les gens peuvent s'identifier.
Lydiane est médiatrice à l'EMSPEC. Dans le quartier Abdallah, elle a du mal à convaincre les habitants de l'intérêt du vaccin.
Franchement, je crois pas. Leur vaccin à la con, là, non. Ok, en quoi ? En l'espace de quoi ? Deux semaines, trois semaines ? Non, en l'espace de quatre mois.
Des fois, ça arrive ça. Et puis, les gens sont agréables, les gens sont d'accord, mais des fois, les gens ne sont pas d'accord. Et puis, les gens disent qu'il faut attendre la décision de les autres qui sont déjà vaccinés.
Actuellement, 40 personnes ont été vaccinées et 78 ont reçu leur première dose.
Un reportage signé Pierre Tréfou de Guyane la Première. Et en bref, avant de vous quitter, cette expérimentation de la reconnaissance faciale opérationnelle à l'aéroport de Paris-Orly. Dans quelques semaines, ce sont les passagers d'Air Caraïbes à destination des Antilles et de la Guyane qui seront concernés par cette innovation. La compagnie ayant validé le procédé de reconnaissance faciale à l'embarquement pour ses passagers. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup. Merci à vous, Tiziana Maron, et aux équipes de la Première.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Et aussi sur les réseaux sociaux, l'actualité est à commenter sur Twitter, @RFIAmérique, notre compte, mais aussi sur Facebook, avec la page Le Journal d'Haïti et des Amériques, qui était réalisée aujourd'hui par Claude Battista. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous d'Haïti et des Amériques sur RFI.
RFI. Autour de la question. Caroline Lachowski,